Laudetur Jesus Christus.
Une audience importante au Vatican ce matin. Le pape a reçu les principaux responsables de la communion anglicane. François a invité catholiques et anglicans à marcher ensemble et reparcouru 50 années de dialogue écuménique. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, Gaza qui attend toujours une trêve, mais l'enjeu est aussi l'offensive terrestre israélienne sur la ville de Rafah. Les États-Unis ont de nouveau mis la pression hier sur le gouvernement Netanyahou. Nous irons à Jérusalem. À la une également, les manifestations pro-européennes réprimées en Géorgie. Elles sont vues avec inquiétude depuis Bruxelles, alors que le pays est tiraillé entre ses aspirations à intégrer l'Union européenne et les influences russes. L'élargissement européen de nouveau sur la table, 20 ans après le dernier grand mouvement d'intégration. Aujourd'hui, la géopolitique avec la guerre en Ukraine est au cœur des enjeux. Nous le verrons à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. Prier, marcher et travailler ensemble, tel est le désir exprimé ce matin par le pape François, tandis qu'il recevait les archevêques, évêques présidents et modérateurs des églises de la communion anglicane. Ils sont réunis à Rome ces jours-ci pour la réunion des primats de 2024. Devant eux, le Saint-Père a souligné les avancées concrètes enregistrées en 50 années de dialogue, sans oublier d'aborder dans un esprit constructif la question de la primauté qui divise toujours les chrétiens. Jean-Charles Puzolu.
Notre communion imparfaite ne doit pas nous empêcher de marcher ensemble. François ne met pas de côté les questions qui divisent encore l'Église catholique de la communion anglicane. À côté des nombreux progrès réalisés et qui offrent des perspectives capables de surmonter le découragement et les inquiétudes, le pape aborde sans détour la question controversée de la primauté qui continue de diviser même si plusieurs années de dialogue écuménique permettent aujourd'hui de l'envisager comme un don à partager. Le rôle de l'évêque de Rome, explique François, est d'être le serviteur des serviteurs de Dieu. Le pape invite ses hôtes à persévérer avec patience et confiance dans le dialogue fraternel afin de comprendre tous ensemble comment le ministère pétrinien peut être exercé. En ce sens, le souverain pontife avoue espérer que le synode dans lequel il a engagé son Église pourra contribuer à apporter des éléments nouveaux grâce, souligne-t-il, à la participation des délégués fraternels représentant des différentes confessions chrétiennes. Mais le message essentiel que livre le pape au primat est le suivant. Il serait scandaleux qu'en raison de nos divisions, catholiques et anglicans n'accomplissent pas leur vocation commune qui est d'annoncer et de faire connaître le Christ.
Oui, Jean-Charles Puzolu. Le pape qui s'est par ailleurs exprimé dans une lettre adressée aux curés du monde entier, les invitant à être des constructeurs d'une église synodale missionnaire. Une lettre publiée alors que 300 curés de paroisses du monde entier viennent d'achever une rencontre de 4 jours près de Rome pour partager leurs expériences pastorales à l'approche de la prochaine assemblée synodale du mois d'octobre. Dans cette lettre, le Saint-Père met en avant 3 recommandations principales à ses curés. Faire ressortir les trésors cachés de leur communauté, pratiquer le discernement communautaire et partager la fraternité entre prêtres et évêques. Tous les détails sur toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur vaticannews.va. Et à l'agenda du pape ce matin également, cette audience accordée au roi Abdallah II de Jordanie. Le souverain pontife s'est entretenu en privé avec le souverain jordanien. La paix au Proche-Orient qui a sûrement dominé les entretiens entre le pape et le roi Abdallah II. Alors que dans la bande de Gaza, une trêve est toujours attendue. Un plan qui prévoit un arrêt temporaire des combats et l'échange d'otages et de prisonniers. Hier, lors d'une nouvelle visite en Israël, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé devant Benjamin Netanyahou l'opposition des États-Unis à toute offensive terrestre sur la ville de Rafah, cette offensive qui, selon le Hamas, stopperait toute négociation en cours pour un cessez-le-feu. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Selon le représentant du Hamas au Liban, Osama Hamdan, les négociations sur un cessez-le-feu sont censées se poursuivre, même si la dernière proposition en date pour un accord présentée par les médiateurs qataris et égyptiens avec les États-Unis ne remplit pas les demandes du mouvement pour parvenir à une trêve de longue durée et à un échange de prisonniers. Les discussions s'annoncent d'autant plus difficiles que côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé que l'opération terrestre dans la ville de Rafah aurait lieu indépendamment d'un accord. Cette ville, où sont regroupées plus d'un million de personnes déplacées, dont 600 000 enfants, reste la cible quotidienne de bombardements israéliens, alors que les combats entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes se poursuivent dans l'ensemble de ce territoire, où la situation humanitaire ne cesse de se détériorer, malgré une modeste augmentation du nombre de convois d'aide humanitaire pouvant y entrer. Certains ont pu accéder à la région nord, la plus touchée par la famine et la destruction des hôpitaux par l'armée israélienne. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Sur un plan diplomatique, la Colombie a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec Israël. L'annonce avait été faite hier par le chef de l'État colombien, Gustavo Petro, qui qualifie le gouvernement Netanyahou de génocidaire dans sa conduite de la guerre à Gaza. La riposte israélienne ne s'est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, accuse Petro d'être antisémite. Dans un communiqué, le Hamas salue la décision colombienne comme, je cite, une victoire pour les sacrifices de notre peuple et sa cause qui est juste. L'Union européenne sort son carnet de chèques pour aider le Liban. L'Union a annoncé ce matin une aide d'$1 milliard pour aider Beyrouth à affronter la crise économique et sociale. Une aide annoncée par Ursula von der Leyen en visite ce jeudi dans la capitale libanaise. Une aide qui doit s'étendre jusqu'en 2027. Au cœur des entretiens libanais de la présidente de la Commission européenne, la question sensible des réfugiés syriens. L'Allemande qui a promis notamment que Bruxelles allait étudier les façons d'aider de manière plus efficace le Liban, notamment en se penchant sur les moyens d'adopter une approche plus organisée du retour volontaire vers la Syrie. L'actualité, c'est aussi la Géorgie, de nouveau en ébullition. Hier, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté dans les rues de Tbilissi, la capitale, pour dénoncer l'adoption d'une loi sur les infiltrations étrangères, des manifestations réprimées à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène. Un dossier suivi de très près à Bruxelles. Depuis plusieurs jours, l'Union européenne exprime sa préoccupation devant ces manifestations réprimées. L'UE qui se range par ailleurs du côté des manifestants, car elle estime que cette loi menace les ambitions géorgiennes d'accéder à l'Union européenne. À Bruxelles, Pierre Benazet.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle la Géorgie à garder le cap vers l'UE. Un concert de voix s'élève dans le même sens à Bruxelles. Le président du Conseil européen, Charles Michel, affirme que le projet de loi actuel éloignera la Géorgie de l'UE au lieu de l'en rapprocher. Des critiques ont aussi été émises par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et par le commissaire européen à l'élargissement, Oliver Vorey. Selon eux, une adoption finale de cette législation aurait des conséquences négatives sur les progrès de la Géorgie sur son chemin européen. L'Union européenne vient justement d'entamer les discussions pour réformer l'état de droit. Elle n'a pas réussi à empêcher certains de ses membres actuels de régresser et elle veut mettre en place des outils nouveaux. Ceci pourrait compliquer les négociations d'adhésion qui sont déjà une gageure. Mais surtout, cela pourrait coûter cher à la Géorgie, au sens premier du terme, car le premier outil envisagé est d'étendre la conditionnalité budgétaire. La conditionnalité, c'est l'obligation de respecter les valeurs démocratiques européennes. Sinon, on perd l'accès aux financements européens. Cette nouvelle règle a fait ses preuves avec la Hongrie et on envisage désormais de l'étendre à la politique d'élargissement. Les pays qui négocient leur entrée dans l'Union européenne reçoivent des financements dits de préadhésion. Ces financements pourraient être menacés si le pays candidat s'écarte de la trajectoire attendue par les Européens. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
La question de l'élargissement européen qui revient au cœur des débats alors que l'on célèbre les 20 ans du dernier grand élargissement. La guerre déclenchée il y a 2 ans par la Russie en Ukraine a remis sur la table la question de l'élargissement avec des critères essentiellement géopolitiques selon Sylvain Cagne, il est spécialiste de l'Europe au Centre d'Histoire de Sciences Po.
Certains pays qui étaient d'anciennes démocraties populaires, je pense notamment à la Pologne ou certains pays qui étaient d'anciennes républiques socialistes soviétiques, là je pense en particulier à la Lituanie, plaidaient depuis une quinzaine d'années pour donner à l'Ukraine une perspective d'adhésion. Et c'était une proposition qui n'était pas du tout majoritaire dans l'Union européenne. Or, en effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par l'État russe, c'est devenu une politique unanime dans l'Union européenne que de négocier avec l'Ukraine son adhésion. Donc ça veut dire que clairement, par rapport aux 4 vagues d'élargissement précédentes, l'élargissement devient, ou plutôt est motivé par une représentation géopolitique. En clair, là, on va privilégier la confrontation avec la Russie sur les critères traditionnels qui sont le respect de l'état de droit, la lutte contre la corruption, la capacité à soutenir une économie de marché. Mais là, très clairement, on dit l'objectif numéro 1, c'est de faire rentrer dans l'Union l'Union européenne, des pays qui sont agressés par la Russie ou menacés par la Russie.
Sylvain Kahn, historien spécialiste des questions européennes, il répondait aux questions de Delphine Allaire. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel et je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.